Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Ces deux extraits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont inspiré d'autres documents comme la Charte des droits et libertés du Canada, expriment l'idéal vers lequel doivent tendre nos sociétés. Mais il faut reconnaître que la réalité est encore loin de cet idéal, non seulement dans certains pays à tendance totalitaire, mais même parfois dans nos pays dits libéraux. Et je ne vous cacherai pas qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années, sur des sujets brûlants, de me poser la question « Ai-je le droit de le dire ?» Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai donc à cœur de vous parler de liberté de conscience, de religion, d'expression. Avant tout, je dois vous dire que je suis très reconnaissant de vivre dans un pays qui affirme et qui respecte largement les libertés fondamentales. Un pays où les chartes et les lois garantissent ces libertés. En tant que croyant engagé, en tant que chrétien convaincu, dans bien des régions du monde, je serai limité, bâillonné peut-être, même en danger. Je ne peux donc qu'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance, pour moi-même comme pour les autres, de la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression qui prévaut au Canada. Mais il m'arrive quand même d'être préoccupé quand je me rends compte que dans certains domaines qu'on considère comme sensibles, la pensée dominante cherche à faire taire les voix discordantes. Je suis préoccupé quand les autorités, les grands médias ou même les médias sociaux essaient d'empêcher que s'expriment des pensées qui ne sont pas celles de la majorité. Et comme je le disais en introduction, il m'arrive assez fréquemment, en préparant une émission ou dans d'autres contextes, de me demander « Ai-je le droit de le dire ?» ou de l'écrire, ou de le partager d'une manière ou d'une autre. Je ne parlerai pas ici de la pandémie de COVID-19 ni du vaccin, même si je dois avouer que parfois, le discours officiel et dominant m'a semblé vouloir faire disparaître les avis divergents, étouffer un peu les questionnements que pouvaient avoir certains scientifiques ou simplement des citoyens de bonne foi. La science avait parlé, il fallait simplement se soumettre. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, même s'il est vrai que la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore pose des questions légitimes par rapport aux libertés individuelles. Mais je veux plutôt m'attarder sur quelques exemples qui touchent directement les croyants et les valeurs fondamentales des chrétiens attachés à la Bible. Il faut rappeler que, dès le début de leur histoire, les chrétiens ont eu à faire face à de l'opposition de la part des leaders, des autorités de l'époque. Non seulement à de l'opposition, mais même à de l'intolérance, à l'interdiction de parole, voire à la persécution. Pensons par exemple à ce que nous rapporte le livre des Actes des Apôtres. Je lis avec vous un verset dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5 et au verset 40. Les membres du Sanhédrin appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. On ne peut pas être plus clair. Le message aux apôtres du Christ était celui-ci : renoncez à vos croyances ou bien gardez-les pour vous, mais ne parlez plus de ce Jésus sous peine d'ennuis plus graves. Ce à quoi les apôtres ont répondu en affirmant ce qu'on trouve dans le chapitre 4 du livre des Actes : est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Dans un contexte de restriction de la liberté de foi et d'expression, avec très souvent des persécutions morales et physiques, les premiers chrétiens ont donc dû apprendre à résister, à lutter pour leur foi tout en manifestant du respect envers les autorités. Équilibre délicat, qui nécessitait de la fermeté, de la force de caractère, sans céder à la tentation de la haine ou de la violence. Pour y parvenir, ils avaient besoin de l'aide d'en haut. Et l'apôtre Paul invitait les chrétiens de son temps à prier pour les autorités politiques pour qu'ils puissent vivre leur foi dans la paix et la liberté. Je partage avec vous un texte justement de l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée, la première, au chapitre 2. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Dès les origines du christianisme, les chrétiens ont donc lutté et prié pour que soit respectée la liberté de conscience, d'expression et de religion. Paradoxalement et tristement, quand le nombre de chrétiens s'est multiplié à travers le monde romain dès les premiers siècles de notre ère, quand les églises sont devenues plus puissantes et influentes, elles ont fait alliance avec les pouvoirs en place et elles ont contribué à limiter, voire étouffer la liberté de ceux qui n'avaient pas embrassé le christianisme. De persécutée qu'elle avait été, l'Église, ou devrais-je dire la soi-disant Église du Christ, est devenue une puissance d'oppression et de persécution, une véritable perversion du message de l'Évangile et des enseignements du Christ. Mais je reviens à notre temps et à la liberté de conscience et d'expression dans notre contexte actuel. Permettez-moi de prendre quelques exemples concrets pour expliquer ma préoccupation. La pensée dominante et officielle en ce qui concerne l'origine de notre planète, de la vie sur la Terre, est que tout est le fruit du hasard et de l'évolution progressive des êtres vivants, grâce aux seules lois aveugles de la physique, des mutations aléatoires et de la sélection naturelle. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse évolutionniste, qu'on présente généralement comme une certitude. Un certain nombre de scientifiques et de penseurs font remarquer que cette hypothèse a quelques mérites pour expliquer la diversité de la vie sur la Terre, mais qu'elle peut difficilement expliquer l'origine de la vie, largement hors de portée du hasard, ou encore les grands groupes de plantes et d'animaux qui existent actuellement. Ces hommes et femmes de science vont attribuer l'existence de la vie sous ses différentes formes à une intelligence, qu'ils croient ou non en Dieu d'ailleurs. Bien entendu, les croyants attachés à la Bible partagent cette vision des origines de la vie, non seulement parce que c'est l'enseignement biblique, mais aussi parce que ça semble plus logique quand on regarde les évidences. Mais ai-je le droit d'en parler, de partager cette vision du monde et de ses origines? Dans le cadre d'une émission comme il est écrit, oui, sans aucun doute, j'ai le droit de le faire, Dieu merci. Et encore une fois, je suis reconnaissant d'être dans un pays relativement libre. Mais dans une salle de classe, par exemple, là, c'est une autre histoire. Un professeur de sciences, quel qu'il soit, ne peut enseigner que la version officielle, sans la moindre allusion à des hypothèses alternatives, comme celle du dessin intelligent. Et bien qu'on dise qu'on veut développer chez eux la pensée analytique et critique, la plupart des étudiants ne sauront jamais, sauf s'ils font des recherches personnelles, que certains scientifiques de haut rang pensent plus raisonnable de croire qu'une intelligence supérieure est à l'origine de la vie, au regard des découvertes les plus récentes. Sans rien imposer, pourrait-il avoir le droit d'en parler? Autre exemple, très sensible celui-là. La pensée de plus en plus dominante dans notre société est que chacun a le droit de vivre sa vie sexuelle comme bon lui semble, tant qu'il n'y a pas de contrainte ou de violence. En conséquence, on ne doit rien dire qui puisse être perçu comme une remise en question des orientations ou des choix individuels, qu'il s'agisse d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité, de relations polyamoureuses ou autres. Évidemment, cette pensée dominante entre en conflit avec la vision qu'ont les croyants de l'amour et de la sexualité. Le point fondamental, le pivot de la foi chrétienne biblique, c'est la reconnaissance du Dieu créateur dont je viens de parler. Or, qui dit Dieu créateur, dit qu'il y a un plan pour la vie sur cette terre, y compris et tout spécialement pour les êtres humains. Ce plan est clairement énoncé dès les premières pages du livre de la Genèse. Et je veux lire avec vous quelques extraits du début de la Genèse, d'abord au chapitre 1er et au verset 27. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Et au chapitre 2, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle était prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Sur la base de ces déclarations fondamentales de la Bible, ai-je le droit de dire, avec respect envers tous, que le plan de Dieu pour la sexualité humaine, c'est l'union fidèle d'un homme et d'une femme? Ai-je le droit de dire, avec respect, que l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité et toutes les autres formes de sexualité ne font pas partie du plan originel de Dieu pour l'humanité? Et quand j'utilise les termes « dire avec respect », je le pense vraiment. Je veux dire que tous les êtres humains ont la même valeur, y compris les personnes qui pratiquent ce que j'ai évoqué il y a un instant. Notre valeur commune et inaltérable est liée au fait que nous sommes des créatures de Dieu, aimées de Lui. Ici, je dois dire que trop de chrétiens ou de soi-disant chrétiens ont eu un discours irrespectueux, méprisant, voire haineux, envers les personnes homosexuelles, par exemple. Tout discours qui exprime le mépris, l'irrespect, la haine ou la violence se disqualifie en tant que discours chrétien et peut à juste titre être condamné. Mais est-il possible, ai-je le droit de dire avec respect, que l'homosexualité, par exemple, est une anomalie au regard du plan de Dieu exprimé dans la Bible et qu'elle est, consciemment ou inconsciemment, une sorte de confusion, un péché au sens étymologique, c'est-à-dire rater la cible? Avons-nous le droit, en tant que croyants, d'exprimer cela tout en réaffirmant que Dieu aime encore et toujours tous les êtres humains, qu'il est prêt à tous nous pardonner et qu'il nous présente un chemin pour nous restaurer à son image, si nous reconnaissons notre besoin de lui et si nous lui demandons son aide? Alors je sais, certains m'ont dit « Oui, mais en disant que l'homosexualité est une confusion, tu m'atteins directement parce que ça fait partie de mon identité profonde. » C'est pour ça que ton discours devrait être interdit, même s'il ne se veut pas méprisant ou haineux. Remarquez bien qu'en poussant ces raisonnements un peu plus loin, à la limite, il faudrait éliminer tous les livres qui ont été écrits qui ne sont pas favorables à l'homosexualité, aux sexualités alternatives. Il faudrait commencer par interdire la Bible, en tout cas en arracher quelques pages, vendre des Bibles expurgées. Permettez-moi une comparaison. À titre personnel, je suis croyant, vous le savez, profondément croyant. La foi en Dieu est ancrée au plus profond de moi depuis mon enfance. Elle fait partie de mon identité. Devrait-on alors interdire aux athées d'exprimer leur rejet de l'idée de Dieu parce que ça blesse mon identité profonde? Doit-on les empêcher de dire, comme le font certains, que la foi en Dieu est un signe de faiblesse, de manque d'intelligence, que la religion est nuisible et que le christianisme est une névrose? En tant que croyant, je vais certainement combattre ces affirmations de toutes mes forces, mais au nom de la liberté de pensée et d'expression, je suis reconnaissant qu'ils aient le droit de l'exprimer. Selon la citation sans doute faussement attribuée à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Je pourrais citer encore bien des exemples, bien des domaines dans lesquels il devient de plus en plus difficile d'exprimer une opinion, une conviction divergente, même avec respect et sans violence. Je vais prendre un dernier exemple, d'autres exemples brûlants, la question de l'avortement. Comme dans les exemples précédents, en tant que croyant attaché à la Bible, notre compréhension du monde et de la vie est liée à la conviction qu'il y a un Dieu créateur, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et c'est ce qui nous amène à affirmer que la vie, en particulier la vie humaine, est sacrée, parce qu'elle vient de Dieu et que le Créateur a un projet de vie pour chaque être humain. Voilà pourquoi l'avortement nous apparaît comme une atteinte à la vie, une transgression de la sixième parole des 10 commandements qui dit « Tu ne tueras point ». En disant cela, je ne me permets pas de juger et encore moins de condamner les femmes ou les couples qui ont eu recours à l'avortement. Chaque situation est particulière. J'ai tout à fait conscience qu'il y a des situations extrêmes, souvent dramatiques, qui peuvent amener des femmes à faire ce choix. Qu'on pense au viol, à l'inceste, à toutes les formes de violences sexuelles, ou encore au cas où la santé de la femme est en danger. Mais ai-je le droit de dire, du point de vue d'un croyant, que le recours à l'avortement comme moyen de régulation des naissances ou pour convenance personnelle est une atteinte à la vie, la suppression d'une vie qui est précieuse aux yeux de Dieu? Puis-je dire que non, d'un point de vue moral et spirituel, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps et que le fœtus n'est pas simplement une excroissance de son corps, mais bel et bien un être en devenir, un individu précieux? J'aime la manière dont le roi David, dans le livre des Psaumes, exprime ce regard de Dieu sur l'enfant encore dans le ventre de sa mère. Je lis avec vous dans le psaume 139, les versets 15 et 16. « Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Pour mémoire, l'avortement, c'est près de 100 000 enfants interdits de vivre chaque année au Canada, plus de 200 000 en France, plus de 600 000 aux États-Unis. Et ce qui est pour moi encore plus troublant, c'est qu'officiellement, ici au Canada, il n'y a pas d'âge limite de l'embryon pour procéder à un avortement. Encore une fois, chaque cas est particulier. Dieu seul est juge et je ne prétends pas qu'il est facile de mettre au monde des enfants et de les éduquer. Mais en tant que croyants, nous ne pouvons que continuer à proclamer avec force la valeur de la vie, de chaque vie, et d'inviter à accueillir cette vie avec confiance en comptant sur l'aide d'en haut. Alors, ai-je le droit ? Ai-je le droit de parler de ces sujets brûlants et de bien d'autres dans une perspective de croyant ? Jusqu'à présent, je peux encore le faire. La preuve, l'émission d'aujourd'hui. Et comme je le dis, j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de pouvoir m'exprimer comme je le fais, reconnaissant que d'autres aient le droit d'exprimer des opinions différentes. Mais je suis bien conscient que sur certains sujets sensibles, sur lesquels la vision de la Bible remet directement en question la pensée sécularisée dominante de notre société, la liberté de conscience et d'expression est très fragile. Quand le Christ lui-même est venu révéler des vérités impopulaires, un message qui remettait profondément en question, on n'a pas mis longtemps avant de le faire taire. Souvenez-vous de ce que dit l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, versets 9 et suivants. Il, le Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si j'en crois les enseignements prophétiques de la Bible, en particulier du livre de l'Apocalypse, notre monde ne se dirige pas vers une période de grande liberté d'expression, en particulier pour les croyants attachés à la parole de Dieu. Ça ne doit pas nous surprendre, ni nous faire peur. Souvenons-nous que Dieu garde le contrôle final de l'histoire de notre monde et qu'il nous prépare à le rencontrer. Mais en tant que croyant et dans l'attente du dénouement final, quelle devrait être notre attitude? Je vous propose deux pistes importantes. Premièrement, soyons des défenseurs de la liberté de conscience et d'expression. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire capable de penser, de choisir, d'aimer, de dire oui et de dire non. que le Créateur Tout-Puissant ait respecté cette liberté de choix pour nous permettre de l'aimer librement et même de lui tourner le dos, ça doit nous encourager, nous aussi, à promouvoir la liberté de conscience, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Tout en continuant à partager le message d'amour et de justice que Dieu nous révèle dans la Bible. Et le dernier point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est une invitation à être fidèle à notre conscience, fidèle à nos convictions, quoi qu'il arrive. Les croyants ont connu, connaissent et connaîtront encore de l'opposition, même la privation de liberté, voire la persécution. Le Christ nous y a précédé, les apôtres et les chrétiens à travers les siècles également. Mais soyons fidèles au message de la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Soyons fermes et aimants, convaincus et respectueux. Assurer que l'Esprit de Dieu va nous accompagner et nous fortifier. Car au fond, la plus grande des libertés, c'est la liberté intérieure que personne ne peut nous enlever. La liberté de faire le bien qui nous est donnée par la relation étroite avec celui qui a été parfaitement libre tout au long de sa vie et qui a dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, au verset 31 et suivant, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Père du ciel, merci. Merci de nous avoir créés comme des êtres libres. Merci de nous avoir créés à ton image, capables de réfléchir, de penser, de choisir et surtout d'aimer. Donne-nous d'être profondément respectueux de la liberté de chacun et nous-mêmes d'être fortement attachés à toi et à cette parole de liberté que tu nous as donnée. Guide-nous sur ce chemin et nous être fidèles jusqu'au bout. En ton nom. Amen. Bonjour France.
Bonjour Rémi.
Alors, dis-nous ce que tu as en réserve pour nos auditeurs aujourd'hui.
Surprise! Alors, nous avons choisi, étant donné que le sujet d'aujourd'hui, alors que nous avons encore cette liberté de conscience, cette liberté d'opinion, on s'est dit, bien, alors, nous allons offrir la Bible, mais on a un format nouveau, un format quand même qu'on est content d'offrir à nos auditeurs. D'abord, en fait, de grosseur de livre, c'est un format qu'on peut facilement transporter avec nous un petit peu partout. Mais ce qu'elle a de particulier, bien sûr, c'est les petits onglets, parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour avoir une Bible à onglets, pour trouver et repérer
Les différents livres de la Bible.
C'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est la première particularité. La seconde, en fait, c'est que les paroles de Jésus sont en rouge, comme on peut voir ici.
On peut repérer plus facilement.
Voilà. Donc, on voit ici les paroles de Jésus. Et en fait, de grosseur de caractère, ce n'est pas à gros caractère, mais c'est très près du gros caractère. On dit que c'est à caractère moyen, donc c'est quand même très agréable, très confortable pour la vue. Alors voilà, c'est le format de Bible que nous offrons aujourd'hui pour 40 $ et les frais de poste sont en suivi, évidemment.
Une Bible avec des caractères assez gros, mm-hmm. avec des onglets et les paroles du Christ en rouge.
Oui, voilà. Donc c'est un beau petit package deal, comme on dit.
Alors, ça c'est notre offre de la semaine. Et puis, je vois que tu viens de sortir la question d'auditeur ou d'auditrice.
Voilà. Donc, c'est Marie aujourd'hui. Marie nous écrit en disant, « J'ai reçu un mail d'une amie qui me demande de prier l'archange. Je me demande si cette prière est bien conforme à mes croyances en Dieu. Merci de me donner votre avis. »
Prier l'archange.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut dire par archange?
Bien, moi, dans un premier temps, j'ai cru qu'il s'agissait peut-être du chef des anges quand on fait référence à Jésus, qui était l'ange de l'Éternel, donc qui est le chef des anges. Moi, c'est ce que j'ai cru.
Le chef des armées célestes.
Voilà.
Ça pourrait être ça. Si c'est ça, on peut dire à notre auditrice, oui, on peut tout à fait prier Jésus. Hein.
Oui.
La Bible...
Il est Dieu.
Hein, Jésus nous autorise même à lui demander les choses dont nous avons besoin. Moi, j'ai tendance à penser, France, que plus probablement, l'archange, tu as fait référence à une sorte de chef des anges, c'est ce que veut dire le mot archange, mm-hmm. hein, chef des anges. Mais tu sais, il y a toute une littérature en ce moment sur les anges.
Hein? Oui, moi même que je trouve que c'est, beaucoup de personnes ne prient que les anges. C'est un ministère que les gens sont très attirés.
Voilà, on parle beaucoup de notre ange gardien, etc., voilà. parce qu'il est proche de nous. Alors, les anges sont très importants dans la Bible. Ils ont un ministère très important. Ouais. Peut-être on pourrait lire un ou deux textes pour mm-hmm. expliquer ce que sont les anges. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte intéressant, c'est le chapitre 1er et au verset 14. Ici, il est question des anges et l'apôtre dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut mm-hmm. ?» Donc, des esprits au service de Dieu, des créatures de Dieu.
Des serviteurs.
Hein? Des serviteurs, des serviteurs qui vont contribuer au bien de l'humanité, pas simplement protéger, souvent on voit cette idée-là, mais surtout travailler pour le bien moral et spirituel de l'humanité. Mm-hmm.
J'imagine qu'ils ont une influence, leur présence
absolument.
A une influence sur nous, etc.
Absolument, absolument. Donc mm-hmm. ça, ce sont les anges, des créatures au service de Dieu, mais des créatures qui expriment clairement qu'elles ne sont pas Dieu et qu'il ne faut pas les prendre pour telles. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 9, alors que Jean va se prosterner devant un ange qui lui est apparu, l'ange va lui dire « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Et un peu plus loin, il dit « Adore Dieu. » Donc clairement, on n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges. Ça, c'est réservé à notre Créateur. Mais on est reconnaissant pour le ministère des anges.
Mm-hmm. Compagnon de service.
Compagnon de service, j'aime beaucoup cette expression aussi.
Exactement.
Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à notre auditrice.
Oui, ben parfait. Ben merci Rémi, c'est clair.
Merci donc
à Marie.
Sa question. Oui. Merci France d'avoir présenté l'offre de la semaine. Et pour l'obtenir, eh bien, voici comment faire.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à ce que vous avez entendu. Vos commentaires sont les bienvenus. Toutes vos réactions, vos questions aussi, vous pouvez le faire sur notre site internet ilestecrit.tv. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».